tout juste 20h sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille qui ne prend pas de vacances, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission ce mardi 29 juillet 2025. Ça fait un an que les Jeux Olympiques de Paris 2024 avaient lieu à Paris. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de Jeux Olympiques, mais on va parler de l'actualité sportive qui est évidemment locale, mais aussi surtout internationale, avec les chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui. À ma droite, Faustin. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Ça va toujours très bien. On les commentait ici en direct, les JO il y a un
très bon souvenir.
Ouais, clairement. On aurait pu commenter l'étape d'hier en direct, ça aurait été quelque chose.
C'est vrai, mais bon.
On ne s'est pas risqué.
Voilà, oui. Et puis on devait y assister, t'y as assisté.
Exactement.
On reviendra dessus. On sait qu'un autre chroniqueur y a assisté, c'est Paulin. Salut Paulin, comment ça va ?
Salut Alex. Bah écoute, ça va très bien. Moi aussi, j'ai pu assister à notre étape du Tour de France féminin hier. C'était plutôt sympa et on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble.
Exactement, le Tour de France féminin qui est toujours en cours à l'heure où on parle, avec donc une arrivée prévue dans les Alpes dimanche. Quelqu'un qui a beaucoup suivi le Tour de France masculin, c'est Mathéo qui est avec nous. Salut Mathéo.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Et puis je l'ai vécu aussi en vrai, pour le coup, le masculin au Puy-de-Sancy aussi, donc étape très sympathique. Pas de sprint du coup, pour le coup, plutôt une échappée avec la victoire finale de Simon Yates, mais c'était très sympa.
J'imagine que t'as pu kiffer vraiment.
Ouais, c'était cool.
Pas forcément avec la rapidité qu'on peut avoir sur un sprint, notamment
non,
en hier.
C'est ça, c'est pas la même chose. Et puis pour le coup, j'étais pas à l'arrivée, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez différent. Mais on a vu les coureurs passer. Ouais. Tu vois le maillot jaune vraiment de très très près, même les autres coureurs qu'on connaît. Et puis à la fin, tu restes une demi-heure pour voir les sprinteurs aussi. Donc non, c'était quelque chose de très positif de mon côté.
Ouais. Bon. Et bah parfait, on va commencer par dérouler le programme de cette émission. On va revenir donc sur les actualités locales. Alors évidemment il n'y a pas grand chose puisqu'on rappelle que c'est l'intersaison et que la plupart des clubs n'ont pas repris tous le chemin de l'entraînement. Il y en a certains quand même qui reprennent, notamment le SCO. On parlera de ça avec toi Mathéo, et puis donc on a un petit mot sur les autres gros clubs, donc comme l'UFAB, Cholet Basket, le AB et le SCO Handball, et puis on basculera rapidement sur la partie internationale. On parlera de football, un petit point rapide sur l'équipe de France féminine et son euro perdu il y a une dizaine de jours maintenant, mais comme on n'était pas là la semaine dernière, on va en dire deux mots. Et puis surtout une grosse partie Tour de France avec le débrief du Tour de France masculin et puis aussi notre ressenti sur l'étape d'hier qui s'est terminée Place Bichon à Angers. Également de la natation puisque c'est actuellement les championnats du monde. On touchera également deux mots sur les médailles de nos Français. Et puis on essaiera de distiller quelques dernières informations, notamment en Formule 1, pourquoi pas. On commence avec toi Mathéo sur le SCO. Le SCO qui est toujours en pleine préparation de la saison 2025-2026.
C'est ça, tu me devances, j'allais dire qui dit été dit préparation et dit donc match amicaux. Vous connaissez la chanson, des matchs qui pour l'instant réussissent dans une certaine mesure au SCO. Pendant que la 2 réussissait à accrocher un nul, un partout contre Chateaubriand, pensionnaire de National 2, l'équipe première jouait à Deauville, son troisième match de préparation. Après la défaite 1-0 face aux Herbiers, la victoire sur le même score face à Caen. Il y a 10 jours, les Angevins affrontaient un autre pensionnaire de Ligue 1, Le Havre, match nul 0-0, mais avec quelques détails à relever tout de même, à commencer donc par le retour de Belkebla après 4 mois d'absence, qui a pu jouer l'entièreté de la rencontre. Les jeunes Angevins aussi ont pu se montrer avec les titularisations dès le départ de Biumla, Sheriff, Raoulizoa, bientôt épaulés par Zinga, Peter, Machine, Lower, Sinat et Garin, qui ont pu découvrir les joies d'un match avec les A, un match que les Angevins ont plutôt bien cadenassé malgré une fin de match assez décousue. Il reste désormais 3 matchs donc pour se mettre en jambes au vu de la première journée de Ligue 1 à domicile contre le Paris FC. Prochaine rencontre prévue samedi à 17h contre Nantes avant de jouer Saumur et puis Lorient. Et enfin, pour finir, quelques informations. Mercato a commencé donc par le fort intérêt de l'OL pour Yaya Fofana. Plusieurs pistes sont activées du côté de l'OL pour remplacer Lucas Perry, dont celle menant donc au gardien ivoirien, dont le remplaçant a déjà été trouvé au SCO, on le rappelle, en la personne d'Hervé Kofi. Selon Mohamed Toubachter, le SCO attend un signe de l'OL qui temporise sûrement en vue de l'annulation du transfert du gardien Nottingham Forest Mike Turner, signé donc par Textor avant son départ de Lyon et dans le club rhodanien, essaie d'invalider le contrat. Selon Foot Mercato, le SCO tenterait aussi de faire revenir un ancien au club en la personne de Flavien Tay, libre donc après la fin de son aventure en Turquie à Samsunspor. Il existe cependant quelques sollicitations de la part de clubs étrangers, mais Flavien Tay ne se serait pas fermé à l'idée d'un retour. Et puis toujours selon Foot Mercato, le SCO s'activerait aussi concernant une piste qui semble cette fois-ci beaucoup plus complexe. Elle mène à Philippe Kenny, 26 ans, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Istanbul Başakşehir, où il aura joué 27 matchs et inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en Super League. Angers se dit très intéressé par le joueur sénégalais, mais devra constituer avec la concurrence sur le dossier de Metz, qui semblerait avoir les faveurs du joueur, mais aussi de quelques clubs du golf ou d'Espagne comme Mallorca et Alavés. Le joueur aurait repousser la première offre angevine, ce qui clôt ainsi presque le dossier qui semble assez onéreux.
Bah merci Mathéo pour cette petite information. Je ne savais pas pour Fofana à Lyon.
C'est une info qui est sortie hier, donc après à prendre plus ou moins avec des pincettes.
Ah, c'est vrai que pour le SCO, c'est
source intéressante, mais Yaya Fofana, c'est intéressant pour l'OL. Dans tous les cas, le SCO n'en tirera pas beaucoup, ça c'est sûr. Ce sera entre 5 et 10 millions, mais ce sera sans doute du 5-6, on va dire. Donc piste intéressante, on verra ce que ça donnera. Pour le coup, on sait que Fofana part du SCO, hein, ça c'est acté. Donc oui. Après, où est-ce qu'il va, on ne sait pas, mais on lui souhaite le plus grand bien.
Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de ce mercato du SCO, qui, on le rappelle, donc c'est pareil, cure d'austérité, on ne prend que des joueurs en prêt ou en tout cas gratuits. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Est-ce que ça vous inquiète un peu ou est-ce que vous êtes serein?
On s'attendait à mieux, je pense, quand même. Il y a eu très peu de signatures. Il y a eu peut-être des jeunes du centre de formation qui ont été signés, ouais, ce qui était le plus fait. Ouais. Mais ouais, il faudrait avoir quelques autres signatures, pas des masses non plus, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais Flavien Tess, ce serait sympa, ouais, pour le symbole en plus de revoir un ancien. Et là, au moment où je suis un peu inquiet sur Yaya Fofana, où on disait au début du mercato, on peut toucher 12 millions, il va assez vite partir, il va vite avoir des offres de Newcastle, des clubs comme ça. Et au final, ça traîne, on arrive bientôt au début à la reprise de la saison, il est toujours pas parti, il y a toujours pas vraiment d'offres concrètes, j'ai l'impression. Donc ça m'inquiète un peu aussi sur le prix auquel il peut partir comparé à ce qu'on attendait au début du mercato.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, moi, Faustin. Surtout que, finalement, mercato pas si mouvementé que ça pour le SCO. Et comme tu dis, on s'attendait peut-être à avoir des départs qui allaient peut-être aussi renflouer un petit peu plus les caisses, comme tu dis avec Yaya Fofana. Où finalement, plus le dossier traîne, plus j'ai envie de dire que le SCO va peut-être le laisser à moindre coût. Donc, c'est peut-être un point négatif. Après, aussi sur le recrutement au niveau offensif, potentiellement avec les nombreux départs en fait qu'on avait eu, finalement est-ce qu'on s'est tant renforcé que ça? Je pense pas. Donc Flavien Tay, pourquoi pas, surtout qu'il connaît le club. Et puis après, le joueur dont tu parlais,
Philippe Kenny,
lui c'était plutôt un joueur offensif dont tu parlais.
C'était un ailier, ouais.
Ouais, donc un ailier, c'est intéressant. C'est surtout ça aussi dont on a besoin. Mais maintenant, là, plus l'été avance, plus j'ai envie de dire ça va commencer à être compliqué aussi de réintégrer des joueurs dans le projet. Après, le point positif de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai pu suivre du SCO, c'est un peu la cohésion d'équipe qui avait l'air de pas mal fonctionner. On a vu au niveau de leur préparation et tout à Deauville que ça rigolait, que ça se chambrait. Donc je pense que le collectif peut être intéressant. Après, on va essayer de construire avec cette équipe-là et de faire une bonne saison.
Ouais, c'était un peu ce qui s'était passé sur les deux dernières saisons. C'est que, donc avec la montée et le maintien, c'est qu'on avait un effectif à chaque fois où on était inquiet. On s'attendait pas à ce que le SCO, dans un premier temps, monte et dans un deuxième temps, se maintienne. Et au final, ils nous ont surpris par une force collective, un très bon coach qui a répondu présent. Est-ce que ça va payer cette année? On verra bien.
Avec moins de recul que l'année dernière aussi. Et là, pour le coup, on est quand même à la moitié de la préparation. Donc c'est vrai que ça pose plus ou moins question. Ouais. Après, à voir, ce qui est un peu dommage là, dans ce que je lisais, en tout cas en termes d'informations mercato, par rapport à Philippe Kenny, typiquement, c'est pas non plus un des gros joueurs libres, un joueur qui attire vraiment les convoitises. Certes, on a des clubs qui sont intéressés, mais ce serait pas pour en faire un titulaire. Au SCO, ce serait plus pour en faire un titulaire. Et pour le coup, le joueur a refusé direct l'offre du SCO. Alors après, est-ce que c'était une offre pas assez onéreuse? Voilà, mais est-ce que le SCO attire vraiment? C'est aussi un questionnement. Et puis, bah oui, le fait que Yaya Fofana, on puisse pas en tirer beaucoup, ça questionne. Abdelli, on n'a pas d'offre non plus. Donc, est-ce qu'à l'origine, c'était un jeu d'agent ou pas? Je pense. Le Milan AC voulait soi-disant faire sa doublure. On avait aussi la même chose, comme tu as dit, pour Newcastle. Donc, c'est vrai que ça pose question. Le mercato du SCO, pour l'instant, il est poussif. Est-ce que le SCO attend de vendre pour s'activer? C'est possible.
On verra ce qui va se passer. En tout cas, pour le SCO, toujours un peu d'inquiétude, mais c'est normal. Quand on sait les moyens assez...
On a l'habitude.
C'est ça, assez peu important.
Confiance à la cellule.
Exactement. Voilà, on a eu des bonnes pioches quand même les années précédentes. Ouais. On espère que ça continuera cette année. On va enchaîner sur le sport local avec donc tous les clubs qui sont un petit peu en intersaison. Du côté de l'UFAP 49, les joueuses d'Aurélie Bonan vont reprendre le chemin de l'entraînement le 18 août prochain. Pour les rencontres de pré-saison, elles défieront notamment Basketland à deux reprises, Roche-Vendée également deux fois, et puis encore Bourges. Depuis hier, on connaît la poule des Angevines en Eurocoupe. Elles seront opposées aux Espagnols de Movistar Estudiantes, aux Roumaines du Rapid Bucarest et aux Slovaques de Piestanske Kashki. Du côté de Cholet Basket, le mercato s'est terminé la semaine dernière avec le recrutement de Chibuzo Agbo, poste 3 américano-nigérian. Et dans le même temps, les Choletais ont acté le départ aux États-Unis de Mohamed Diawara, la révélation de la saison, qui souhaite évoluer en NBA dans les prochaines années. Alors, Faustin, est-ce que tu as vu des infos par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses du joueur?
Du joueur
Mohamed Diawara.
Mohamed Diawara, il était drafté en NBA, du coup, 51e place. Complètement mérité.
Apparemment, il n'a pas de contrat, mais il va rester au.
Ah ouais?
Quand même.
C'est qu'il a son contrat, c'est pour ça qu'ils ont pu acter son départ Cholet.
Ok, d'accord.
C'est après la Summer League où il a mis un buzzer de tout le terrain.
Ok. Pas mal déjà.
du coup il a eu son contrat avec les Knicks en NBA. C'est totalement mérité pour la saison qu'il a produit à Cholet, qui était d'une très grande qualité. Et ça a plu aux Knicks et à d'autres scouts NBA. Donc ça fait plaisir de voir une fois de plus un élève choletais partir du côté des États-Unis.
C'est plutôt pas mal, en effet. Et puis, du côté de l'Étoile Angers Basket, qui a aussi bouclé son mercato avec 6 arrivées enregistrées au mois de juillet. Et on termine ce tour de l'intersaison des clubs angevins avec le SCO Handball qui a officiellement été maintenu en Pro League il y a quelques semaines. Le SCO restructure son effectif après la dernière place de la saison dernière et l'arrivée de son nouveau coach Joël Da Silva. Alors que les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement il y a 2 semaines, 7 d'entre eux ont rejoint le club angevin cet été. Et à noter enfin que Tom Balem, génération d'or du meilleur espoir en 2023, a enfin signé son premier contrat professionnel au sein du SCO Handball. Donc voilà pour les actualités locales. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses.
Je sais quelque chose, c'est pour la... que ça concerne un peu l'UFAB, c'est dans la ligue de la Wonder League, où Tarbes, qui avait donc éliminé oui. l'UFAB au premier tour des playoffs, on l'avait commenté en direct, perdu d'un c'est point. Vrai. C'était encore un
c'était
grand...
Charnay.
Ouais, c'était Charnay. Autant pour moi. Mais du coup, Tarbes
qui a fini deuxième.
Oui, voilà, Tarbes qui a fini deuxième. Est rétrogradé en, oui. en régional.
Ouais, c'était assez tragique hein, pour ouais, les Tarbaises.
D'un coup, un coup de massue sur la tête. Et du coup, c'est Chartres qui est maintenu en Wonder League okay. pour remplacer Tarbes.
Voilà. Oui, c'est vrai que parce que c'est un destin assez tragique. Hein.
Ça, ouais, finale deuxième.
Championne de France et l'année prochaine, elles joueront en régional. Donc voilà, le club du DGB qui tombe tout en bas à cause de problèmes financiers, encore
Exactement,
une fois.
Ouais.
Nos clubs locaux sont tous un peu menacés dans ces niveaux-là. Et Tarbes, donc, va donc descendre. Et donc, comme tu disais, Chartres qui va monter. Voilà un petit peu pour les infos locales. Ouais, y a rien d'autre particulier. On reviendra sur l'étape d'hier un peu plus tard. Avant la pause musicale, on peut peut-être faire un gros point football, commencer par l'Euro féminin qui a vu son dénouement se dérouler donc dimanche, la victoire de l'Angleterre qui a regagné donc son titre qu'elles avaient déjà glané en 2022, victoire au tir au but après un match nul un partout. Les Anglaises qui donc pour la plupart ont également gagné avec des champions avec Arsenal. Les Anglaises qui donc ont battu les champions du monde espagnols puisque c'était un remake de la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Et à noter donc que l'équipe de France, on le rappelle, a été sortie en quart de finale au tir au but également par l'équipe allemande qui est derrière a été éliminée par l'Espagne. Donc voilà, est-ce que vous avez un petit peu regardé cet Euro féminin, messieurs, notamment l'équipe de France quand elle était encore dans le tournoi, puisqu'on rappelle qu'elles ont fait quand même une très belle phase de poule en battant d'ailleurs toutes les équipes de leur poule, notamment l'Angleterre qui est le futur vainqueur, et puis également les Pays-Bas qui étaient aussi une bonne équipe. Est-ce que vous avez regardé un peu ou pas du tout?
J'ai regardé un peu le match contre l'Allemagne,
ouais.
Surtout le début où on voit les deux buts, on voit la France qui peut être dominante, qui peut tuer ce match.
Le carton rouge,
voilà, aussi le carton par l'Allemagne. Sur tirage de cheveux, comme Joe Neves.
Exactement, c'était un remix.
Voilà, mais ouais, et puis ensuite encaisser un but sur coup de pied arrêté, ce qu'il fallait à tout prix éviter, c'est ce que les Allemands ont réussi à faire. Et la France n'a pas réussi à tuer le match derrière. C'était vraiment dommage. Il y a de quoi s'en vouloir, je pense, sur cette
deux buts refusés pour hors-jeu.
Voilà, d'une action qui était vraiment splendide, qui est finie en match derrière.
Ouais.
Mais ouais, c'est vraiment dommage de pouvoir réussir à avoir dominé, imposé son rythme suffisamment pour gagner finalement contre les
Allemands. La barre transversale aussi de Malard en fin de match.
Elles sont un peu malheureuses, c'est nos Françaises, mais elles avaient mieux à faire, je pense, quand même, dans cette finale. Et puis la séance de tir au but qui est pas non plus très bien gérée.
La course de Magerie qui a fait un peu de bruit.
Ouais, voilà. Mais c'est ce qu'on a remarqué beaucoup dans cet Euro féminin aussi. Les séances de tir au but n'étaient pas très prolifiques.
Oui, bien sûr. C'était assez compliqué, mais que ce soit en finale. Mm. Moi, j'étais tombé aussi sur Angleterre-Suède où ça a beaucoup raté. Paulin, Mathéo, non, vous n'avez pas forcément regardé.
Pour le coup, moi, du coup, pas eu l'occasion. J'ai essayé de suivre un petit peu de loin, ouais. mais c'est vrai que j'étais en randonnée, donc pour le coup, pour suivre un peu les matchs, c'est assez difficile. Mais c'est vrai que c'est décevant pour la France. On en attend toujours plus ou moins de la part des Françaises dans les grandes compétitions, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, même les JO l'année dernière. On sent qu'il y a toujours quelque chose à faire avec ces Françaises parce que tout le long de l'année ça fonctionne, que ce soit les clubs, que ce soit même elles avec des clubs étrangers. Donc c'est vrai que le fait de se faire éliminer encore aussitôt dans la compétition face à un adversaire aussi prenable, c'est assez décevant. On espère toujours que ça les pique un petit peu et que sur les prochaines compétitions, on puisse espérer quelque chose de mieux. Il y a quand même beaucoup de jeunes aussi, donc c'est pas totalement négatif. On est allé loin quand même, on s'est pas fait éliminer en phase de groupe. Il y a du bon, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu suivre, ça reste très décevant. Et oui, donc moi je suis déçu comme tout bon supporter français. Ouais.
Voilà.
Puis elles ont montré quand même, comme tu disais, de très belles choses en phase de poule, ouais. Notamment d'une belle force de résistance dans certains matchs, surtout face aux Pays-Bas, où elles finissent quand même par gagner le match de plus de 2 buts ou 3 buts, je sais plus si c'est 4-2 ou 5-2,
ouais.
En fin de match, mais elles étaient menées, et une deuxième mi-temps où elles ont vraiment montré des velléités offensives, je trouve, assez convaincantes, avec Cascarino qui passait un peu pour le feu follet sur le terrain, et il y avait une vraie aisance, un collectif assez intéressant, et en tout cas dans justement le regard vers ces phases finales, ça montrait du bon, surtout quand on pouvait regarder, bon, à part l'Espagne où l'Espagne a vraiment été très très forte elles aussi dans les phases de poule, les Anglaises par exemple, si on compare, c'était quand même beaucoup plus poussif dans ce qu'elles ont pu montrer.
Ouais, puis on les a battues surtout.
Bah oui, il y a eu 2-1 pour la France, et après elles ont quand même montré des choses où il y avait en tout cas plus de points d'ombre, moi, sur la copie que j'ai pu voir du côté anglais que du côté français. Ouais. Après, malheureusement, bon, bah là, c'est des faits de jeu, ça fait partie du jeu. Elles étaient en supériorité numérique, nos Françaises, mais bah, malheureusement pour elles, ça ne l'a pas fait. C'est comme ça. Je pense que, avec l'effectif qu'on a, on est tous d'accord pour dire qu'il y a du talent et qu'elles sont capables, quand on voit justement où en sont les Anglaises maintenant, qu'elles sont capables de rivaliser avec les Anglaises, vu qu'elles l'ont montré. Et les Anglaises sont championnes d'Europe, donc il y a bien quelque chose à faire pour ces Françaises.
On verra ça pour les prochaines compétitions françaises, donc la Coupe du Monde sûrement en 2027 et les JO en 2028. On va rester un peu sur le football, sur le mercato, sur peut-être les dernières infos. Est-ce que tu en as un peu, Mathéo, du jour? Et puis après, je ferai peut-être un tour de table sur les transferts qui vous hype un peu pour cette intersaison. Est-ce qu'il y a quelles infos un peu t'as retenu récemment, Mathéo?
Bah alors justement, j'étais là un petit peu sur la page des transferts. Je me suis dit qu'on allait essayer de se projeter déjà vers le début de la saison prochaine. C'est vrai que dans les transferts récents, celui qui a fait le plus de bruit, c'est forcément celui d'Hugo Ekitike, qui rejoint Liverpool en provenance de Francfort pour 95 millions, donc 80 plus 15 de bonus. 15 de bonus, c'est assez énorme, mais tu mets quand même 80 millions sur Hugo Ekitike, oui, dès le départ, qui est un excellent joueur. Hugo Ekitike qui s'est vraiment révélé cette saison, on le connaissait déjà à Paris. Il y a eu beaucoup de critiques aussi sur Hugo Ekitike, sur sa réception à la pression, on va dire, comment faire face à la pression à Paris. Maintenant, est-ce que ça va être un frein pour son transfert et son niveau à Liverpool? Moi, si je donne mon avis, je pense que non. Je pense qu'à Paris, il a été plutôt placardé. Mais c'est vrai que du coup, ça pose question de manière plus large sur le mercato de Liverpool. Parce que le mercato de Liverpool, pour le coup, tu fais Florian Wirtz, 125 millions, pardon. Hugo Ekitike, 95 en tout. Tu fais Kerkez, 40. Frimpong, 40. Là, on parle d'Alexander Isak. Ça va se faire autour de 130, 140. Donc, à moins qu'on ait trouvé un puits de pétrole sous Anfield, c'est vrai que ça pose plus ou moins des questions. Dans tous les cas, le mercato, il est là. Un mercato qui est ambitieux pour peut-être la plus grande équipe l'année dernière en termes de niveau avec Paris. En tout cas, c'est l'équipe qui s'est fait éliminer par Paris. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, et je pense que Paulin, toi qui as suivi la Première Ligue, ça doit te parler aussi, ce niveau, oui, de Liverpool absolument énorme. Donc, la saison prochaine, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que toi, justement, qui as suivi pas mal l'APL, tu peux nous dire concrètement les changements, peut-être que toi, tu verrais justement l'impact sur le championnat, simplement?
Ouais. Mais moi, déjà, je trouve que au niveau de la Première Ligue, il y a quand même pas mal de recrutements qui personnellement, justement, me hype pour la saison à venir. Et je pense que vous serez d'accord, parce que à commencer par Liverpool, qui fait quand même un mercato assez exceptionnel, mais même assez limite irréel. Enfin, surtout s'ils arrivent à signer Isak, comme tu le dis. Je veux dire, quand tu arrives à dépenser, je sais pas, ils seront peut-être à 350 millions de dépenser, voire 400
coup,
millions.
Logiquement, là, on est déjà à 300 millions.
Bah, c'est pour ça. Donc avec Isak, 420, tu seras à 430 millions. C'est assez fou. Mais comme tu le dis, moi, je pense que Liverpool était déjà la meilleure équipe de Première Ligue l'année dernière, même en faisant une deuxième partie de saison où le championnat était limite déjà gagné. Donc, en fait, ils ont dominé sans réellement dominer, où il n'y avait plus l'impact que tu as eu leur début de saison était vraiment, franchement, exceptionnel. Mais tu as aussi, par exemple, Arsenal, qui a été, je ne sais pas si vous avez suivi aussi les déplacements du côté d'Arsenal, mais moi, il y a un transfert que j'aime beaucoup dans un sens, c'est l'arrivée de Gyökeres aussi du côté d'Arsenal. Dans le numéro 9, un peu un profil dont ils avaient besoin, parce que c'était souvent Kai Havertz à cette position, alors que Kai Havertz, est-ce que c'est vraiment un numéro 9? Bah, ça posait des questions. Donc déjà, l'arrivée de Gyökeres, je trouve que ça les renforce. Ils sont aussi allés chercher Noni Madueke, Christian Mosquera. Enfin, en fait.
Zubimendi aussi qui vient.
Martin Zubimendi. En fait, il y a plein de recrutements en PL de tous les côtés dans les clubs. Je pense aussi au promu Sunderland. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais le mercato de Sunderland, il est aussi très varié. Beaucoup de recrues, de l'expérience avec Granit Xhaka qui a signé pour 20 millions. Je crois que c'est tombé hier ou avant-hier en provenance de Leverkusen. Donc moi, comme tu le sais, bah, la PL, j'adore suivre ce championnat et je pense que là, en termes d'été en Première Ligue, on est quand même sur un des étés qui va potentiellement rester dans l'histoire en termes de changement. Et en plus, s'il y a Isak, bah, si Isak part, on parlerait aussi de Sesko, pourquoi pas du côté de Newcastle. Sesko, c'est quand même un attaquant maintenant.
Un gros prospect, oui.
Ouais, qui commence à faire parler. Donc, ouais, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises en PL et je pense que ça promet une très grosse saison.
Et on a des transferts en plus qui ont été plus ou moins invisibilisés. Je pense à Mohamed Kudus.
Tout à fait,
qui signe à Tottenham. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Elanga aussi, à Newcastle. Mm-hmm. Forcément, ça va être, en fait, c'est des gros mouvements. C'est un peu les gros joueurs de plus petites équipes qui, mm-hmm, montent dans les plus grosses. Et c'est assez intéressant pour des sommes qui sont assez énormes. Pour le coup, peut-être un mot sur le mercato de Manchester United, qui signe pour 150 millions Brian Mbeumo, Matheus Cunha, qui sont, ouais, des très bons joueurs, hein. Mm-hmm. Mais bon, pour 150 millions, ça peut paraître assez excessif.
Ouais, c'est sûr. Après, maintenant, qu'est-ce qu'un transfert excessif? Parce que de toute façon, on pourrait discuter de ce qu'on pense des montants. Hein. Oui, enfin, 95 du coup bonus compris pour Hugo Ekitike, ça peut aussi faire parler et ça a déjà fait parler. Moi, je sais pas trop ce que c'est votre avis là-dessus, mais c'est vrai que maintenant, quand tu prends des joueurs qui ont évolué en Bundesliga, tu connais un peu la réputation du championnat. Tu sais que globalement, les attaquants vont être très prolifiques sur ce champ-là. Tu prends peut-être un risque à aller mettre une somme d'argent et aussi grosse. Après, tu parles de Brian Mbeumo et Matheus Cunha. La différence pour moi est que eux en PL, ils ont déjà confirmé, ils ont déjà prouvé. Brian Mbeumo avec Brentford, où il a quand même porté l'équipe, et Matheus Cunha avec les Wolves, c'est la même chose. Il les a un peu sauvés de cette relégation. Donc c'est un peu pareil. Pour Manchester United, je sais vraiment pas si c'est le type de profil de joueur qu'il fallait que tu t'ailles chercher et qu'il fallait que tu cibles. Parce qu'au final, t'as l'impression de tourner un peu dans les mêmes profils, les mêmes identités de joueurs. Par contre, au niveau du montant des transferts, ça reste élevé. Mais j'ai envie de dire, maintenant, t'es limite obligé de mettre un peu ce tarif-là pour avoir des joueurs de renom comme ça.
C'est ça, on a clairement une inflation, on va dire, sur les transferts, sur le montant des transferts qui est assez dingue. Y a plein de joueurs qu'on aurait vu à 15 millions il y a peut-être 5 ou 10 ans, et qui aujourd'hui en valent 30 ou 35, quand on voit certains noms de Ligue 1, des Calimuendo, des Ablin, on demande des 25, des 30 millions d'euros. Oui. Bon, voilà, Eli Wahi qui a coûté 30 millions, Pak Chao, qu'on connaît pas forcément beaucoup, qui est un prospect, mais 35 millions, quand même, c'est la barre est haute.
Ouais, il a 26 ans quand même, voilà. Pak Chao, donc c'est quand même... c'est un profil intéressant, mais c'est vrai que 35 millions, c'est beaucoup.
C'est un investissement, ouais.
C'est un investissement. Je pense que le tampon Eurodivisie joue pour beaucoup aussi. Hein.
Ouais. Et je voulais faire une transition avec un autre débat, puisque c'est le chroniqueur à ma droite qui me fait penser à ce débat. Il a un maillot du Barça, Faustin. Il y a eu un recrutement aussi qui a fait beaucoup parler, parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu unanime sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça, c'est sexy, on va dire. C'est Rashford au FC Barcelone. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que Blaugrana?
Moi, j'aime bien, ça va faire de la profondeur pour soulager Rafinha, notamment, qui est, il me semble, le joueur de Barcelone qui a le plus joué cette saison. Donc, il y avait besoin de le faire souffler sur la saison prochaine. Et Rashford, c'est un talent quand même assez qui était exploité, mais on sent qu'il a pas atteint son plein potentiel et j'espère qu'il va réussir à l'atteindre avec le Barça. Il va sûrement pas être titulaire, c'est ce qu'on lui a vendu, j'imagine. Il arrive en prêt en plus, donc ouais, mais ça me paraît très intéressant. Il a pas joué beaucoup sur le premier match de prépa, mais c'est pas bien grave. Il a quand même été impliqué sur un but. Mais ouais, moi j'aime beaucoup cette recrue, surtout que c'est un prêt, ça a pas coûté bien cher non plus. Donc c'est pour une profondeur que le Barça n'avait pas et qui cherche là, c'est vraiment pas mal.
Les gars, qu'est-ce que vous en pensez?
Pour le coup, Rashford, c'est intéressant, mais c'est qui tout double. Rashford, il est sur la pente descendante depuis 2 ans maintenant, je dirais. L'année dernière, le prêt Aston Villa a été quand même assez sympathique. On l'a vu faire de belles choses, hein, même contre Paris. C'est vrai que sa rentrée au match retour était assez intéressante. On sent qu'il a toujours ce feu dans les jambes. Il est encore jeune, il a 27 ans, Marcus Rashford. Donc, il a encore quelques années devant lui, quelques potentielles belles années. Et surtout, c'est un prêt avec option d'achat à hauteur de 40 millions,
ouais, c'est
crois,
ça, 40.
Quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, 40 millions, c'est assez accessible. Si tu relances la machine, 40 millions, c'est une très belle somme. Et derrière, tu peux l'avoir pendant 2-3 ans. Surtout que Rafinha, il sort d'une très belle saison. Top ailier la saison dernière. Peut-être top 5 monde à son poste, quasi assuré. Et au final, t'es pas sûr que le mec refasse la même saison la saison prochaine et ensuite la saison d'après, parce que il y a le passif Rafinha qu'on connaît, qui est un super joueur, mais vraiment qui s'est révélé la saison dernière comme personne n'aurait pu le penser. Donc forcément, si t'as ce bagage derrière, c'est assez intéressant, ouais.
Ouais, et puis Rashford, moi je trouve que c'est un joueur qui fonctionne aussi beaucoup à la confiance. Et à Manchester United, ça allait plus parce qu'il avait plus forcément la confiance en fait de l'entraîneur. Et forcément, en tout cas moi je l'ai tout de suite vu quand il est arrivé à Aston Villa. On a quand même revu un peu du Rashford qu'on avait l'habitude de voir il y a de ça 2 ou 3 saisons à United, où il avait vraiment fait une saison exceptionnelle, une saison à la Marcus Rashford tel qu'on le connaissait en fait, avec le joueur dynamique, capable d'aller agresser les défenses, capable de dribbler, de provoquer, de tirer, de mettre des super buts hors de la surface. Et je pense que dans un collectif tel que celui du Barça, Moi, je vois pas comment il peut ne pas s'épanouir avec les joueurs que tu as au milieu de terrain, avec son aisance justement offensive. Alors après, on va voir aussi comment il s'implique défensivement, parce qu'on sait que Rashford, ça a pas toujours été ce joueur à aller faire les efforts. En tout cas, à Aston Villa, tu l'as très bien dit, face à Paris, il avait quand même fait mal aux Parisiens, surtout sur le match retour où, enfin, Paris avait eu peur et il en était pour beaucoup. Donc moi, je pense que dans un collectif où ça tourne bien, où il a la confiance d'Hansi Flick, parce que ça, on l'a vu et ça tourne déjà rien que sur les matchs de prépa, on voit qu'Hansi Flick, il va vers Rashford et que même aussi un des critères de choix de pourquoi aussi ça plaisait à Rashford une destination, la destination de Barcelone, c'est aussi ce qu'a pu lui dire Hansi Flick. Moi, je pense que tous les éléments sont réunis pour que Rashford fasse une bonne saison. Dans un rôle qui peut évoluer, hein, ça se trouve il sera très très fort en sortie de banc et ça lui collera à la peau toute la saison, ou alors il se retrouvera titularisé parce qu'il sera phénoménal. Peut-être qu'il sera replacé dans l'axe si tu vois qu'à un moment donné Robert Lewandowski ça marche moins, Ferran Torres non plus, mais lui il excelle. Il y a plein de choses, mais en tout cas pour le Barça et pour la profondeur de l'équipe, c'est quand même positif.
Ok, très bien. Est-ce que vous aviez un autre sujet, un autre dossier qui vous intéressait peut-être aussi bientôt? On n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais le dossier Chevalier Donnarumma pour reprendre les buts du Paris Saint-Germain la saison prochaine. On attendra peut-être d'en savoir un peu plus pour aller sur ce terrain-là. On va passer à la pause musicale tout de suite et après on reparlera du Tour de France évidemment. On va s'écouter Noé Bayol de Bad Bunny. On se retrouve juste après.
Si te quieres divertir otra vez lo sacamos al estadio.
Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
C'était Bad Bunny et Noé Bayol sur Radio G. Vous êtes toujours en direct dans Génération Sport sur le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr ou bien sur les plateformes DAB+. On est toujours donc avec Faustin, Paulin et Matteo pour parler sport. Et on va tout de suite parler vélo avec ce Tour de France féminin. Chers auditeurs, vous êtes peut-être allés hier à cette étape qui se terminait à Angers, notamment Place Bichon. Donc on passait notamment le long de la Maine juste avant, avant de tourner au niveau du château d'Angers, on passe devant le quai notamment, et voilà un parcours qui a ravi évidemment les Angevins qui ont pu s'intéresser un petit peu au Tour de France féminin. Je vais me tourner vers toi, Paulin, puisque tu étais à l'arrivée, donc il y avait vraiment une chaude ambiance à l'arrivée, on le voyait pour ceux qui l'ont regardé à la télé. Raconte-nous un peu comment c'était, il y avait tant de monde que ça ou pas?
Bah franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors moi je suis arrivé sur les coups de 14h45-15h, histoire d'essayer de me placer vers l'arrivée, et franchement il y avait déjà du monde. C'est-à-dire que j'ai pas pu être en gros devant, seul aux barrières. En tout cas moi c'est que je voulais vraiment me positionner au niveau de la ligne d'arrivée, mais plus on remontait avant, donc sur les 500 derniers mètres etc, on voyait que quand même les gens étaient en place, que au moins de passage de voiture ça tapait sur les barrières, l'ambiance était assez bonne enfant j'ai trouvé, donc c'était plutôt sympa. Il y avait les grands écrans qui nous permettaient aussi de suivre ce qui se passait, donc suivre la course en direct, c'était aussi intéressant. Et on va dire que les speakers ont essayé de mettre un peu d'ambiance en attendant que les coureuses arrivent, et puis dès qu'on est rentré dans les 20 derniers kilomètres, dès que ça passait du côté de Cantenay et que ça commençait à revenir, là tout de suite on sentait que la ferveur commençait à venir, que l'ambiance arrivait. Il y a eu ce moment de chute au niveau du rond-point.
C'est vrai, on n'a pas parlé, mais oui.
Et donc d'ailleurs, bah, c'est là où il y a eu quand même une assez forte réaction par rapport à tous les gens qui étaient proches de moi, etc. Parce qu'on pouvait voir
sur l'écran, il y avait
un petit écran juste en haut en fait de l'arrivée. C'était assez petit, mais on a pu voir ce qui se passait. Okay. Donc on a vu la chute et en fait les commentateurs présents nous ont aussi prévenu que Demi Vollering était impacté par cette chute. Donc ça a aussi créé un petit peu l'atmosphère pesante en fait avant ce sprint. Parce que le sprint a suivi juste après, et juste cette chute où on a vu aussi qu'à un moment donné la maillot jaune actuelle, donc Kim Lecourte, celle d'hier, était aussi impactée, a été ralentie, donc il y a eu une petite ambiance un peu pesante. Puis après le sprint est arrivé, et la entre guillemets favorite du sprint, Lorena Vibes, qui s'est imposée, mais moi j'ai bien aimé l'expérience et j'ai trouvé ça sympa.
C'est vrai que j'allais faire un résumé, mais au final t'as très bien résumé l'étape, effectivement. Donc les coureuses qui partaient de Le Gacilly, en Bretagne, qui quittaient la Bretagne après 3 jours de course, et puis donc qui sont arrivées dans le Maine-et-Loire, passant notamment par vers le Danjou, par Feneux, par Montreux-Juniers, route de Cantenay-Épinard également, et très discrètement Avrillé, hein, vraiment juste une route, Aquavita Terra Botanica, le petit détour vers le stade Marcel Nolo, et puis ensuite Jean Moulin, Saint-Serge, et à Saint-Serge, la fameuse chute dont tu parlais, Paulin, avec donc la grande favorite de l'équipe FDJ, Demi Vollering, qui effectivement est tombée, prise dans une grosse chute qui a vraiment concerné beaucoup, beaucoup de coureuses. Donc voilà, pour tourner à droite et reprendre vers la rocade. Et puis donc, comme tu le disais aussi, Lorena Vibes, la sprinteuse, clairement la meilleure du circuit cycliste féminin, qui s'est imposé sans grand suspense, on va dire, et elle s'est imposée devant Marianne Vos qui a récupéré le maillot jaune qui était maillot vert et qui l'a laissé à Lorena Vibes, et donc voilà, Demi Vollering qui est donc tombée et qui finalement ne sera pas pénalisée au classement général, puisque on a gelé les chronos aux abords des 5 kilomètres, donc pas trop de conséquences, si ce n'est évidemment physique, même si elle a pu repartir ce matin. Et on rappelle que donc aujourd'hui il y a eu donc une étape entre Saumur et Poitiers. Alors peut-être d'ailleurs que des gens qui nous écoutent ont pu y aller également. Et en tout cas, non seulement Demi Vollering est reparti, mais on a eu donc une nouvelle victoire de Lorena Vibes aujourd'hui, pareil, en patronne, qui s'est imposée au sprint. Là, vraiment pareil, pas de contestation possible. C'est bien elle, la meilleure sprinteuse du tour. Faustin, qu'est-ce que t'en as pensé? Donc toi, t'étais plus donc la route de Cantenay.
C'est ça, la sortie de Cantenay.
C'est ça, entre Cantenay et Avrillé, voilà.
Exactement. Moi aussi, du coup, j'ai eu la chance d'être à l'endroit où ça a relancé un peu dans l'échappée, où une coureuse a été distancée. Du coup, c'était sympa à voir.
Mais on rappelle donc qu'il y avait 4 échappées, ouais, dont une française. Il y avait une française, une chilienne, une canadienne et une espagnole. Et elles se sont fait rattraper justement au niveau d'Avrier, Terabzanica, tout ça.
Juste après moi, en fait.
Exactement.
C'est pour ça qu'il y a un coup de relance, donc c'était sympa à voir, parce qu'en plus, on avait le direct, mais on savait qu'elles arrivaient juste après, et on s'y attendait pas non plus. Donc c'était sympa à voir, j'étais en première ligne. Et ce que j'ai remarqué aussi, qui était agréable, c'est dans le peloton notamment, les coureuses avaient l'air de vraiment prendre plaisir à être supportées, à justement ouais. Ça passe dans le rond-point où j'étais, où ça applaudissait beaucoup, il y avait des poètes, je sais plus le nom,
des klaxons,
voilà, merci. Et vraiment les coureuses souriaient, ce que j'ai pas eu le souvenir de voir quand je suis allé plusieurs fois au Tour de France masculin,
ouais.
Voilà, qui étaient juste heureuses d'être là, en fait. Et ouais, ça, même quand t'es public, voir des coureuses qui te sourient, ça fait plaisir.
Ouais, mais je pense qu'elles se font kiffer beaucoup à parcourir ouais. Le Tour de France. On rappelle que c'est la 4e édition cette année et que nous avons également donc une étape de plus par rapport aux années précédentes avec 9 étapes. Donc voilà, pour ma part, moi j'étais pas très loin, effectivement. J'étais sur la.
Le rond-point d'après,
c'est ça, un peu plus haut, effectivement, sur la montée, mais comme elles essayaient de rattraper les échappées, elles allaient à 50 ou 60, donc c'était très rapide. Voilà pour ça. Donc Mathéo, tu n'as, je crois, pas pu y aller.
Non, j'ai pas pu y aller.
T'as j'ai pu regarder suivre, jeter un
quand même. Ouais, carrément, j'ai pu suivre. Il se passe des choses super intéressantes, hein. Surtout pour le général, à l'arrivée de la montagne, on a pas mal de favorites qui tombent. On en a d'autres qui restent aussi. Et puis pour le coup, ce qui est bien, entre guillemets, on va pas tirer du positif d'une chute, mais pour Pauline Ferrand-Prévot, je me dois de penser à ça aussi, parce que l'autocopeki, elle est à plus de 3 minutes désormais au général. Elle était un peu malade, elle le sent pas, ce Tour de France, donc du coup l'autocopeki finit pour le général. Elisa Longo-Borghini, qui elle a abandonné, donc une favorite en moins. Kim Lecourte, je pense pas que sur une course de 9 jours, elle pourra réussir à justement aller prendre ce maillot jaune. Est-ce que Marina Vos va réussir à le garder, c'est pas sûr. Donc derrière, il reste 3 favorites entre guillemets, même si Pauline Ferrand-Prévot, elle a pas elle est 3e, hein, Pauline Ferrand-Prévot.
Oui, oui.
Elle a pas pour le coup fait encore de grands tours, on rappelle, donc elle a quand même gagné Paris-Roubaix, mais elle a pas fini de grands tours encore.
En fait, pour expliquer aux gens, elle a commencé sa carrière sur route.
C'est ça.
Elle est allée sur cyclo-cross
il y a un an, je dirais.
Non, elle.
Enfin là, elle a repris la route.
Quand elle a lancé sa carrière, je veux dire jeune, elle a été sur route. Après, elle a fait tout. Elle a tout gagné en cyclocross. Mmh. Elle a tout gagné ce qui était possible de gagner, notamment le titre. Il y a un an justement de champion olympique. Et avant de se relancer effectivement sur route.
Exactement. Et donc où elle a gagné Paris-Roubaix.
C'est ça.
Là, elle arrive, elle découvre avec une grosse équipe, hein, la Visma, même équipe que Vingegaard. Alors je sais pas si au niveau des féminines, pour le coup, on a le même budget ou la même équipe. Mais donc derrière, il nous reste Nuvia Doma. Celle qui a gagné l'année dernière, Demi Vollering et Pauline Ferrand-Prévot sur les 3 favorites. Derrière Vollering, est-ce que elle justement avec sa chute, on sait que ça a toujours un impact psychologique. Donc est-ce que derrière elle va aller justement peut-être moins tenter de choses et donc moins s'exposer. Nuvia Doma, elle est moins forte que l'année dernière en tout cas pour l'instant. Donc ça laisse une porte ouverte. Entre-ouverte peut-être, mais ouverte quand même à Pauline Ferrand-Prévot, et le classement pour le général et la bataille justement qui en suit pour le coup est beaucoup plus intéressante que chez les hommes.
C'est ouvert, on va dire.
C'est très ouvert.
Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à suivre évidemment cette compétition. Et à noter, avant de basculer sur le Tour de France masculin, qu'il y a une Française qui est actuellement meilleure jeune, maillot blanc, c'est Bégo, qui est actuellement donc leader du classement des meilleurs jeunes. On va donc basculer sur ce bilan du Tour de France masculin et la victoire avec, franchement, je pense que ça a surpris tout le monde, hein, personne ne s'y attendait. Tadej Pogacar qui a gagné son 4e Tour de France avec une avance assez considérable, hein, près de 4 minutes 30 sur Jonas Vingegaard.
4,24,
voilà, presque. C'est assez conséquent, surtout quand on sait, il y a 2 ans, que c'était Vingegaard qui battait le jeune Slovène. Ça a été un tour qui a été quand même un peu avec du positif et du négatif. On s'est parfois ennuyé, parfois on a eu de très belles étapes. Assez irrégulier, on va dire. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mathéo?
Bah moi honnêtement j'ai plus apprécié que détesté ce tour, ouais. Pour une raison qui est assez simple en fait, c'est le renouveau. Moi je trouve que c'est un Tour de France qui me hype pour les prochains parce qu'on a plein de jeunes qui se sont révélés. Il y a qu'à voir la bataille en fait que ça a été pour le maillot blanc hein, directement. Alors on sait que généralement les maillots blancs ils font aussi podium. Ça arrivait avec Remco, avant ça arrivait aussi avec Adam, Simon Yates, etc. Yann Bernal, voilà les maillots blancs généralement ils sont sur le podium, mais c'est quand même toujours sympa de voir qu'il y a une vraie bataille pour ce maillot, parce que Oscar Henley a fait un super tour. Oscar Henley, c'est une grosse surprise, il finit quatrième, alors que Oscar Henley, on l'attendait pas forcément là. C'est un leader d'équipe quand même, mais c'est quelqu'un qui reste assez jeune. On a eu un super tour de Benelli aussi, Benelli qui a 24 ans, Vauclin il a 25. Il y a eu plein de superbes choses au niveau des jeunes, donc moi c'est un Tour de France qui me donne du positif pour l'avenir. Et puis même au-delà de ça, on a eu des super épreuves, on a eu un tracé qui était vraiment intéressant. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé autour de la table, mais s'ils arrivaient sur des cols, on a eu l'étape avec le col de la Lose, col de la Madeleine, où il y a trois cols hors catégorie. Alors c'est dommage, l'étape n'avait pas eu l'effet voulu, mais même les étapes pour Baroudeur étaient vraiment bonnes. On a eu juste un enchaînement un week-end où on s'est un petit peu ennuyé avec les deux étapes de plaine, mais au final on a eu Van Der Poel qui nous a fait vibrer en partant échappé kilomètre zéro, il a été repris à 700 mètres de l'arrivée. Donc au final moi je trouve qu'il y a quand même du positif sur ce tracé, sur ce qui en a découlé aussi. Et puis oui, le seul regret c'est qu'il n'y a pas eu de bataille véritablement pour les maillots, parce que le maillot jaune, il n'y a pas vraiment eu de bagarre. Non. Alors on ne saura jamais si la Visma s'était tenue à son plan jusqu'au bout. Est-ce que ça aurait fonctionné ou pas sur les dernières étapes de montagne? Je suis pas sûr. Maillot à poids, il n'y a pas eu de bataille parce que Tim Herlier a essayé à gagner deux étapes quand même, mais n'a pas réussi à faire quelque chose contre Jonathan Milan. Et puis derrière, grimpeur, c'est pareil. Lenny Martinez a essayé quelque chose, a fait quelques calculs d'apothicaire, mais au final, ça n'a pas marché. Donc à part pour le maillot de meilleur jeune, on n'a pas eu de bataille, et c'est vrai que ça c'est un petit peu décevant, mais moi je garde beaucoup de positifs sur le reste.
C'est ça, il y a pas mal eu d'étapes comme ça qui étaient vraiment sympas à voir, notamment le Ventoux avec la seule victoire française, Valentin Paré-Peintre, qui s'est imposé.
C'était magnifique,
c'était
victoire
incroyable
contre Benelli en plus.
C'était vraiment très beau. Benelli qui était donc ancien maillot jaune à ce moment-là, et puis le sprint à la fin, il l'a déposé. C'était magnifique, et puis avec c'était rare sur un moment tout quoi.
Avec une magnifique réal.
Ouais, aussi franchement,
aux petits oignons, c'était vraiment.
C'était pas mal. Alors, Paulin et Fausta, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Tour de France?
Moi aussi, j'ai parlé de l'étape sur les champs. Enfin, la dernière étape.
Ouais, l'étape parisienne a été très très intéressante.
La montée de Montmartre, c'était la première fois peut-être dans le Tour de France, ou alors.
Non, la première fois, ils l'ont fait parce que au JO justement.
Ouais, c'est ça. Première fois au Tour.
Ouais, c'est ça. Du coup, et c'est, on voit que c'est hyper intéressant avec le fait de geler les chronos à 50 km de l'arrivée. Ça permet à des Pogacar de prendre des risques, de vouloir gagner cette étape. Au final, c'est Wout van Aert qui sort une étape monstrueuse, qui dépose Pogacar. On l'avait pas vu venir, je pense, celle-là pour ceux qui.
Un très beau match entre les deux.
Ouais, c'est ça. Vraiment sur la dernière montée, finalement, il arrive à le déposer et à finir en solo avec, pareil, la magnifique image de finir seul sur les champs. C'est très beau. Mais ouais, sinon, dans l'ensemble, je suis pas souvent le Tour de France. Là, je l'ai pas mal suivi. Et ouais, j'étais très surpris, très heureux finalement de suivre ce Tour de France en voyant plein de coureurs gagner plein d'étapes, prendre le maillot jaune au début, voilà Benelli qui m'a beaucoup surpris, que je connaissais pas du tout, et que j'ai fortement apprécié. Et pareil pour Kevin Vauclin, j'avais entendu son nom, mais comme je suis pas un grand amateur de cyclisme, je connaissais pas. Et ouais, même avec les interviews qu'il a fait après les courses, tout ça, je me suis pris de cœur pour ce coureur,
un qui personnage, ouais.
Exactement, qui a l'air fort sympathique et qui était très bon en Tour de France.
C'est vrai que nos Français dans le cyclisme, on a la chance d'avoir, je pense, des Français très très cool, très accessibles et plutôt marrants. Paulin, ton avis sur ce Tour de France 2025?
Bah moi c'est un peu comme Faustin, dans le sens où c'est vrai que le Tour de France j'ai souvent suivi mais de loin, et cette année je m'y suis vraiment intéressé et j'ai suivi de très près pour essayer un peu de justement d'en savoir un peu plus sur comment se déroulaient les stratégies d'équipe, etc., et un petit peu en apprendre plus aussi sur les coureurs. Déjà je pense que c'est une des premières fois où je prends réellement plaisir à regarder la dernière étape de ce Tour de France, qui est une des étapes que je suis le plus habitué à suivre, parce que derrière t'as le podium du vainqueur, etc., et ça marque la fin de trois semaines. Et là, vraiment, le final dans le Montmartre avec l'ambiance, le public. Enfin, la première attaque dans le Montmartre, en plus, elle est faite par, enfin, sur la montée de Montmartre, elle est faite par Julien Alaphilippe. Donc déjà, ça montre aussi que certains coureurs avaient envie de la gagner et que c'était symbolique. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est le fait que Pogacar, lui, c'est une étape qu'il avait marquée dans le calendrier. Il avait aucune raison, en fait, enfin, je veux dire, il n'était pas du tout obligé de la jouer et d'aller tenter de chercher cette victoire. Et quand on voit ce qu'il a essayé de donner, battu par Wout Van Aert, qui est quand même Wout Van Aert, un cycliste de renom, et bon, c'est peut-être quelqu'un qui va être plus performant sur les classiques que sur un tour, mais là, je trouve que aussi c'est beau pour lui après ce qu'il a vécu. Je me suis renseigné aussi sur sa carrière et venir un peu s'imposer comme ça. Je crois que sa dernière étape qu'il avait gagnée, c'était un contre-la-montre à Rocamadour, si je me souviens bien. Donc franchement, pour lui, c'est beau. Et moi, c'est pareil. J'ai appris à connaître des coureurs, Timen Arensman, que j'ai vraiment apprécié, qui gagne deux fois des étapes en montagne et qui s'impose. Ben Illy aussi, très impressionnant dans sa capacité à attaquer sans cesse. À un moment donné, d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir en parler, parce que dans l'étape du Puy de Sancy, c'est quand même lui qui emmène tous les coureurs. Finalement, Simon Yates arrive à faire la différence à la fin, mais la montée, elle est menée d'une main de maître par Ben Illy, et en fait il amène tout le monde avec lui. Moi, il m'a impressionné, un coureur comme Quinn Simons, dans sa façon aussi et dans son physique un peu atypique, qui a été très bon pour Lidl Trek,
qui a été élu meilleur équipier.
Qui a été meilleur équipier. Le prix de la combativité, c'est Ben Illy qui l'a. Donc c'est plein de coureurs comme ça qui m'ont fait aussi apprécier ce Tour de France. Et malgré, on va dire, la déception que moi j'ai eue vis-à-vis de la Visma et vis-à-vis de Jonas Vingegaard, que je pensais pouvoir rivaliser un peu plus, et que j'essayais de me persuader, enfin je sais pas si vous c'était pareil, mais au fur et à mesure que les étapes avançaient, j'essayais de me dire si peut-être que là c'est la bonne étape pour Vingegaard, qui va réussir à déposer Pogacar dans une montée, à faire la différence. C'est jamais venu, malheureusement, mais il y a quand même eu de très belles choses, et moi j'ai vraiment apprécié ce Tour de France.
Bah, sur la Visma, je suis plutôt d'accord avec toi. À chaque fois, en plus, les coéquipiers de Vingegaard étaient vraiment très bons. Je pense à Kampenaerts, qui a fait vraiment un Tour de France très impressionnant. Kampenaerts, quand tu le voyais rouler, il allait vraiment vraiment très vite. Pareil pour Sepp Kuss. En fait, la déception sur la stratégie, elle tourne autour de Jorgensen. J'allais dire Johannessen, non. Jorgensen, qui au final fait pas un grand tour, qui finit 19e quand même, Matteo Jorgensen. Donc l'année dernière, il fait top 5, je crois.
Ouais, puis surtout quand il a commencé dans les premières étapes, il était dans le top 5 sur les 3, 4, 5.
Et puis il avait l'air frais. Étapes, ouais. Il avait l'air frais, et au final, il a voulu faire une stratégie tout seul, d'aller peut-être chercher une étape, justement parce qu'il était sans doute déçu de son tour, qu'il a pas voulu jouer le général aussi. Et au final, ça a joué des mauvais tours à Vingegaard. Et c'est vrai que la stratégie de la Visma, qui finit quand même meilleure équipe de ce Tour de France, hein, donc c'est pas non plus une grande défaite pour la Visma, on en a connu des pires, mais pour le coup, c'est vrai qu'elle a pas été optimale pour battre Pogacar, ça c'est évident.
Et à noter, alors je savais pas ça, mais c'est tombé dans l'après-midi, Kevin Vauclin, donc a été vraiment la sensation de ce Tour de France, le premier Français, 7e du général du Tour, qui a été victime quelques jours après donc son arrivée sur les champs d'une fracture, au niveau du péroné. En trébuchant dans ses escaliers. J'ai vu ça,
oui, c'est apparemment.
Assez, c'est assez dingue, et donc il sera pas disponible pour les championnats du monde qui auront lieu en septembre prochain. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur ce Tour de France, un coup de cœur, un coup de gueule?
Moi, je voulais dire aussi sur les sprints de Jonathan Milan, où j'étais vraiment impressionné de voir la tempête qu'il mettait aux autres coureurs, avec un style qui lui est vraiment propre, de mettre des tout petits à-coups. Et je sais pas, c'était vraiment impressionnant. J'avais jamais vu une méthode de sprint comme la sienne, et là, ouais, voilà, la distance qu'il mettait aux autres, la différence de watts dans les pédales, c'était assez impressionnant. Voilà. Petit coup de cœur en plus.
Eh bien, merci à toi pour cette belle analyse. On va basculer, il est 20h50, on va basculer sur la natation. Paulin, tu avais préparé, je crois, un petit truc sur ce qui se passe du côté de Singapour et les championnats du monde qui ont lieu actuellement.
Ouais, tout à fait. Donc, comme tu l'as très bien dit, les championnats du monde de natation sont à suivre en ce moment du côté de Singapour. Et hier, on a pu assister à la rédemption de Maxime Grousset, vainqueur du 50 mètres Baptiste Papillon est nouveau champion du monde de la distance. Maxime avait quitté les JO 2024 à Paris dans une déception individuelle très prononcée, sans avoir réussi à décrocher le moindre titre en solo. Sa seule source de satisfaction étant la médaille de bronze sur le relais 4x100 4 nages masculin, qu'il avait partagé avec Florent Manaudou, Johan Endoy-Brouard et Léon Marchand, forcément. Et lundi, à Singapour, et après avoir dominé ses deux séries précédentes, en explosant notamment le record de France en demi, il a tout simplement remis les pendules à l'heure et a confirmé son immense talent en s'imposant dans une course formidable où il s'est d'abord vu derrière l'impressionnant Suisse Noé Ponti et sa coulée formidable, devant à 25 mètres du mur, là où une simple touche avant ses adversaires suffirait à décrocher le Graal, la médaille d'or, le titre de champion du monde. Mais Maxime Grousset n'a pas voulu réitérer les déceptions des JO et la flèche française a mis les turbos sur la deuxième partie du 50 mètres en accélérant sa fréquence de bras et d'ondulation pour venir arracher le titre des mains du Suisse en touchant à seulement quelques dixièmes de moins que Ponti. En 22 secondes 48 contre 22 secondes 51, ça s'est vraiment joué à rien. La stratégie, on va dire, de Maxime Grousset, c'est que sur son dernier coup de bras, il en a pas rajouté. Il est allé chercher à toucher le mur avant Ponti, qui lui a refait un mouvement de bras et ça lui a permis d'exulter et de célébrer son chef-d'œuvre. Sa quête de titre a été récompensée et le voilà à nouveau dans l'histoire de la natation après son titre sur 100 mètres papillon en 2023. Et il peut remercier son entraîneur Michel Chrétien, qui a dû envoyer toutes les bonnes prières pour pousser son prodige vers la victoire. Maxime Grousset est à nouveau grand et l'or lui va à merveille. Mais l'entraîneur français n'a apparemment pas envoyé qu'une seule prière, car un autre protégé de Michel Chrétien a réalisé une performance exceptionnelle aujourd'hui, une performance que l'on attendait peut-être moins. C'est le français de 24 ans, Johan Endoy-Brouard, spécialiste du dos, qui lui s'est imposé justement, enfin c'est pas imposé, mais qui a pris la troisième place et la médaille de bronze après une remontée sensationnelle dans les derniers mètres de la course. Pourtant dernier à 50 mètres, contrairement à Grousset, c'était pas forcément attendu aussi haut dans la course et ça a rendu son exploit encore plus beau. Son émotion à la fin de la course m'a foutu les frissons et ça montre à quel point lui-même était fier de sa performance, comme nous devant notre écran. Moi j'étais lors de ma pause avant de repartir au taf et j'étais content de pouvoir assister à ça et c'est vrai que il était l'indo numéro 1. Il y avait vraiment d'autres clients et il avait vraiment une position qui lui permettait pas forcément de faire ce qu'il a fait et c'était assez incroyable, surtout qu'au commentaire c'était Camille Lacour et Camille Lacour détenait, bon on sait qu'il a été plusieurs fois champion du monde et notamment de cette discipline là au 100 mètres d'eau et Johan Endoy-Brouard a réussi à détrôner le record détenu par Camille Lacour depuis 15 ans donc pour la petite histoire
encore de France, ouais.
J'ai dit record du monde.
Non, t'as dit record tout court.
Ah oui, record de France. Oui. Record de France, oui, tout à fait. C'est le Sud-Africain Coetz qui a chopé l'or devant l'Italien Tchekon. L'Italien Tchekon, d'ailleurs, très bon nageur parce qu'il a été aussi médaillé de bronze sur le 50 mètres papillon. Donc là, pour le coup, moi, j'étais vraiment bluffé par la prestation d'Endoy-Brouard. Aller chercher la médaille de bronze comme ça avec des clients qui avaient déjà fait certains résultats aux Jeux Olympiques, etc. C'était vraiment, même lui, en fait, on a vu... Quand il est sorti de l'eau, qu'il s'y attendait pas, il était en pleurs. Je pense que vraiment les émotions l'ont submergé. Et c'est encore plus beau ce qu'il a fait sur ce 100 mètres d'eau. On attend désormais de voir la suite de leur parcours sur la scène internationale. Et évidemment, on va vous tenir au courant des performances du marchand de rêve, Léon Marchand, qui commencera ses premières courses dès demain et qui participera aux 200 mètres et 400 mètres 4 nages, là où il vise évidemment l'or et les records du monde. Hein, ça, maintenant, lui... On a envie de dire que l'or, c'est limite la formalité hein, quand on a vu ce qu'il a proposé au JO. Et maintenant, ses objectifs, c'est d'aller chercher les records du monde et de montrer que petit à petit, il va écrire sa légende et s'inscrire comme le meilleur nageur de l'histoire. Hein. Je pense qu'il y a de la place pour lui de détrôner Michael Phelps.
Il y a donc 4 courses auxquelles il va participer, 2 individuels et 2 relais, c'est
ouais.
ça.
C'est ça.
Et c'est vrai, grosse course de Endoy-Brouard, c'était assez dingue. Comment il a remonté tout le monde, c'était assez fou.
Ouais.
Et c'est vrai que pareil pour Grousset, ça s'est joué à la dernière seconde parce que j'avoue moi pour avoir vu en direct, j'ai visuellement pas tout de suite vu qu'il avait gagné.
Non, tu le vois pas.
Tu le vois pas. Tu te dis, et puis après tu vois le 1, tu comprends pas.
Ouais, c'est ça.
Et effectivement, il avait bien gagné. Ça s'est joué à la touche, comme on dit. En natation. On va terminer par quelques petites informations complémentaires. Je sais pas, messieurs, si vous avez d'autres choses à rajouter. La Formule 1, avec ce week-end le Grand Prix de Spa, un Grand Prix évidemment historique du circuit de Formule 1, un Grand Prix qui a été quand même retardé par la pluie et qui est finalement parti. Victoire in fine de Piastri devant Norris et Leclerc, et au classement général des pilotes, Piastri reste premier devant Lando Norris et Max Verstappen. Un petit mot de tennis également. On n'était pas là la semaine dernière, donc on n'a pas pu parler de Loïs Boisson, qui a remporté le premier tournoi de sa carrière à Hambourg, le tournoi ATP 250. Elle a réussi donc à remonter dans le top 50 au classement WTA. En revanche, elle ne reviendra pas tout de suite sur les cours, puisqu'elle a été forfait pour le tournoi 1000 à Montréal, et donc elle sera de retour sûrement pour le tournoi de Cincinnati au mois d'août prochain. Voilà pour les dernières informations concernant le sport international. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission de Génération Sport. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On rappelle que donc il y a un an la vie était belle avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais en 2025 évidemment l'actualité sportive continue, et donc on se retrouve,
et la vie est toujours belle,
et la vie est toujours belle, bien sûr. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour parler de toute l'actualité sportive, et je suis sûr qu'il y en aura. On se quitte avec le générique, et puis on vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio G.
Radio-G.